Vous êtes avec SBS French. Journal des sports de ce dimanche avec tout d'abord le Dakar 2022, c'est parti. Et je vous propose d'abord ce focus sur le français Stéphane Peter-Ancel, qui d'ailleurs a deux moteurs électriques dans sa voiture, comme nous l'explique Thomas de Saint-Léger pour Radio France Internationale.
Et au départ, il y aura bien sûr Monsieur Dakar, Stéphane Peter-Ancel, recordman de victoires dans l'épreuve, 6 en moto, 8 en auto. Il est d'ailleurs tenant du titre de cette catégorie, mais cette fois, le Français ne sera pas favori. Son pari est osé, partir pour la première fois au volant d'une voiture hybride avec deux moteurs électriques. Un sacré défi et beaucoup d'excitation pour le pilote de 53 ans.
C'était possible pour moi d'arrêter l'année dernière. Le timing était bon après avoir gagné sur 3 continents différents, mais le projet d'Audi était vraiment intéressant et tellement innovant que c'était impossible pour moi de refuser. J'étais très curieux de ce qu'allait devenir le futur du Dakar, donc la motivation a été facile à trouver. Je suis très heureux de faire partie de ce projet parce qu'il est très ambitieux.
Et hier, déjà, la première étape a eu lieu. Le point avec Antoine Grenier pour RFI.
C'est un habitué, Nasser El Attiah, qui a remporté le prologue de 19 km sur sa Toyota. Prologue couru entre Jeddah et Ahil. Le Qatarien, vainqueur avec un temps de 10 minutes et 56 secondes devant l'Espagnol Carlos Sainz, double champion du monde des rallyes et triple vainqueur du Dakar. Sainz qui dispute la compétition avec sa nouvelle Audi hybride, une des nouveautés de cette édition 2022. En moto, la première victoire est elle revenue à l'Australien Daniel Sanders sur KTM. Cette première journée du Dakar marquée hors course par la grave blessure d'un pilote de buggy français. Philippe Boutron a été touché au mollet lors de l'explosion survenue sur un véhicule d'assistance. Une enquête des services de sécurité saoudiens est en cours. La sécurité autour du rallye a été renforcée. Quant au pilote, il doit être rapatrié en France après avoir été opéré. Le Dakar 2022 va durer 2 semaines et parcourir 8000 km dimanche. Deuxième étape, 514 km, dont 333 de spécial.
On passe au foot, la Premier League en Angleterre avec la victoire de Manchester City contre Arsenal. 2-1, Philippe Auclair et Antoine Grenier pour RFI.
C'est cruel. On va dire qu'ils loupent au niveau du résultat, mais ils n'ont pas du tout loupé au niveau de la performance, en tout cas pas lors d'une première période qu'ils ont dominée. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent dire ça contre Manchester City, qui, rappelons-le, avait quand même 10 victoires d'affilée avant d'arriver à l'Emirates. Une très très belle prestation de l'équipe de Mikel Arteta en l'absence de leur entraîneur pour cause de Covid. Mais encore une fois, après avoir ouvert la marque sur un but absolument somptueux de Bukayo Saka, un merveilleux mouvement collectif conclu par le 6e but du jeune attaquant anglais en Première Ligue cette saison, eh bien Arsenal est retombé dans ses vilains défauts. Un penalty, on va dire, très généreux accordé, mais pour un geste en tout cas risqué, on va dire, de Granit Xhaka dans la surface. Un penalty qui a été transformé par Riyad Mahrez. Ça, c'était en seconde période. Et puis, quasiment immédiatement après, eh bien Gabriel, le défenseur central brésilien des Gunners, qui est exclu pour 2 cartons jaunes en l'espace de 2 minutes. Et donc Arsenal qui tient et qui finit par craquer à la 93e minute sur un but un petit peu chanson, on va dire, des Citizens. Donc ils ont poussé Manchester City jusqu'au bout. Dans d'autres circonstances, avec peut-être des décisions arbitrales, peut-être un petit peu moins défavorables, on va dire ça comme ça, peut-être aurait-il pu l'emporter. Match nul certainement. Mais en tout cas, ça confortera Mikel Arteta dans l'idée que son équipe a fait d'énormes progrès. Mais par contre, au niveau comptable, pour Manchester City, c'est le break, le clean break, puisque à l'issue de cette rencontre, ils ont désormais 11 points d'avance sur Chelsea et 12 points d'avance sur Liverpool, qui joue demain, ce dimanche. Alors certes, Chelsea a un match en moins, certes, Liverpool en a 2, mais le break est fait. Et quand on voyait la façon dont les joueurs de Manchester City ont célébré le but de la victoire de Rodri, donc à la 93e minute, c'était comme s'ils avaient célébré le titre. Et je peux vous dire qu'en Angleterre, aujourd'hui, il ne fait vraiment plus beaucoup de doute dans l'esprit de beaucoup de monde que ce titre, c'est sans doute aujourd'hui que Manchester City, lors de cette 20e journée, l'aura acquis.
Chelsea, 2e, jouera contre Liverpool, 3e, ce dimanche. Et on passe à quelques nouvelles de foot en bref avec Clémentine Patlovski et Thomas de Saint-Léger pour RFI.
En football, ça bouge sur les bancs de la Ligue 1. Après Claude Puel à Saint-Etienne, deux entraîneurs vont aussi quitter leur poste avant la reprise.
Rupture actée, signée même entre Laurent Batless et 3 17e de Ligue 1. Et beaucoup plus surprenant, du côté de Monaco, on apprend ce soir le départ imminent du Croate Niko Kovac, qui avait emmené la formation princière sur le podium du championnat la saison passée. Monaco, actuellement 6e du classement, est qualifié pour les 8e de finale de la Ligue Europa.
Et une question, le Covid va-t-il perturber la reprise des clubs français ? De nombreux cas ont en tout cas été signalés.
Bordeaux, de son côté, n'est pas sûr de pouvoir aligner une équipe pour le déplacement à Brest dimanche en Coupe de France. Idem pour Angers, qui annonce 19 cas positifs dans son effectif. Et demande, comme Bordeaux d'ailleurs, le report de son match de Ligue 1 face à Saint-Etienne, prévu le 9 janvier prochain, avec en plus de nombreux joueurs convoqués pour la CAN avec leurs sélections respectives. Le casse-tête devrait encore se compliquer dans les prochaines semaines.
La CAN et ses jours J moins 7, comme nous l'explique Mehdi Meded pour RFI.
La Gambie, dont ce sera la première participation, la Gambie qui est dans une mauvaise passe puisqu'elle a dû annuler ses deux matchs amicaux contre l'Algérie qui était prévu ce soir et la Syrie la semaine prochaine. Car 16 des 28 joueurs gambiens sont indisponibles. Tout y passe, Covid, blessures, maladies, restrictions de voyage.
Et puis la nouvelle que Victor Osimhen ne jouera pas pour le Nigeria, il a le Covid, comme nous l'explique Christophe Jousset pour RFI.
Il était l'un des joueurs les plus attendus sur les pelouses camerounaises avec les Salah, Mané et Mahrez. Victor Osimhen ne sera pas au rendez-vous. Onyekuru prend sa place dans la liste révisée ce matin par la fédération nigériane, 24 heures à peine après l'annonce de son test positif au Covid. Triste épilogue pour un joueur qui avait fait tout son possible pour revenir après une sérieuse blessure. Fin novembre, un choc lors d'un match lui occasionne de multiples fractures au visage. L'orbite de l'œil est touchée ainsi que la pommette. Naples est alors en tête du championnat d'Italie grâce notamment à la grande forme d'Osimhen et le club annonce 3 mois d'indisponibilité. Pourtant, début décembre, le Nigérian reprend la course à l'entraînement et il y a quelques jours, son nom apparaît dans la première liste des joueurs retenus pour la CAN. Manifestement, le Covid a mis fin à tout suspense. Non, le prix Marc-Vivien Foé 2020 ne jouera pas la Coupe d'Afrique. Une issue qui ne fera sûrement pas de peine à l'entraîneur de Naples, très réticent à libérer ses internationaux africains. Récemment, Luciano Spalletti qualifiait la CAN de monstre invisible qui vient prendre des joueurs dans ton vestiaire.
Et maintenant, en cette période de transition entre 2021 et 2022, je vous propose la rétro avec l'Italie qui a remporté l'Euro en 2021 contre l'Angleterre à Wembley. Simon Bourtembourg pour RFI.
Le succès des Italiens prend son origine en 2018. Né d'une humiliation, celle d'avoir été incapable de se qualifier pour le Mondial en Russie, une première depuis 60 ans. Avec l'arrivée de Roberto Mancini, la nationale étire un trait sur son style de jeu historique, le catenaccio, une tactique qui prône la solidité défensive. Le sélectionneur italien met en place une philosophie plus séduisante en se basant sur la jeunesse, avec notamment Federico Chiesa et Nicolò Barella. Un pari gagnant, puisque 3 ans plus tard, c'est avec le statut d'outsider que les Italiens arrivent à l'Euro. Euro qu'ils remportent finalement face à l'Angleterre à Wembley, grâce à un jeu généreux mêlant rigueur défensive et allant offensif. La bande à Mancini marque même de son empreinte l'histoire du football en sélection, en réalisant 37 matchs d'affilée sans défaite, une série record à laquelle met fin la Rora en Ligue des Nations. Un point de bascule pour la nationale et qui ne savoure pas longtemps son triomphe de l'Euro. En difficulté dans leur groupe, les Italiens ne parviennent pas à se qualifier directement pour la Coupe du Monde 2022. Les voilà contraints à passer par les barrages en mars prochain pour être du voyage au Qatar.
Voilà pour le journal des sports de ce dimanche.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.